Le quart d'heure de l'INO, une émission en partenariat avec Habitéo sur Radio Immo.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans le quart d'heure de l'INO, une émission proposée dans le cadre de la collection French PropTech. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour co-présenter Jeanne Massa. Bonjour Jeanne.
Bonjour Fabrice.
La CEO, cofondatrice d'Habitéo, vice-présidente de la French PropTech. Cette semaine, ce mois-ci, Jeanne, on va s'intéresser à la réalité virtuelle. On le sait, hein, les investisseurs, les entreprises, mais aussi les salariés ou les conseils d'administration sont des usagers comme les autres qui ont le même besoin universel, c'est celui de se projeter. Et effectivement, avec cette nouvelle technologie, eh bien, on va pouvoir utiliser la réalité virtuelle. Elle est sous-estimée, peu utilisée aujourd'hui dans l'immobilier d'entreprise et pourtant, elle revêt de nombreux atouts. On va le voir, visiter les bâtiments avant même la construction, aider à la prise de décision, visualiser les plateaux, configurer les espaces, etc. etc. Alors, comment les réalités artificielles peuvent être s'inviter à la table des négociations immobilières? C'est ce que nous allons voir, Jeanne, avec notre invité.
Richard Mal, enchanté.
Bonjour.
Richard, bonjour. Vous êtes Deputy Head of Business Service en charge de la recherche, de l'innovation et de la data chez BNP Paribas, oui. Real Estate. Avec vous, justement, on va s'emparer de ces sujets. Vous allez nous présenter ce qui se passe chez BNP Real Estate. Mais juste avant, Jeanne, je voudrais avoir votre vision, parce que chez Habitéo, on connaît bien la réalité virtuelle.
Oui, ça fait partie de notre ADN. Effectivement, on a construit, nous, des outils de réalité virtuelle pour que les acheteurs puissent se projeter, surtout sur la partie résidentielle dans un premier temps, mais l'immobilier d'entreprise s'y prête énormément. Et ce sont des outils qui permettent de se projeter sur des programmes neufs, donc sur des immeubles qui ne sont pas encore construits, qui permettent de visiter un quartier, qui permettent de pouvoir voir comment évolue aussi le quartier sur lequel on va investir. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant sur ce que vous avez réalisé chez BNP Paribas, c'est du coup c'est Wired, c'est cette cartographie qui est sur des technologies de temps réel et qui permet effectivement finalement d'emmener, et ça, d'autant plus dans ces périodes sur lesquelles se déplacer peut être compliqué, d'emmener des clients visiter et donc découvrir. Et peut-être vous allez nous parler après l'intégrer de la donnée sur l'ensemble de ces plateaux, de ces biens que vous faites visiter.
Alors, on commence tout de suite avec vous, Richard, justement. On a défloré un petit peu le sujet. Présentez-nous, justement, cet outil Wired.
Oui, alors, Wired, déjà, comment c'est né, hein, comment c'est
posé la genèse du projet.
Tout à fait. Alors, c'était même avant la crise de la Covid, hein, déjà en 2018-2019, on se posait des questions, on faisait des réunions de travail sur le sujet, et on se rendait compte de quoi les utilisateurs, disons les acteurs de l'immobilier au sens large, avaient besoin de davantage d'instantanéité, c'est-à-dire avoir tout de suite. Voilà. Bon, il y a 10 ans, lorsqu'on me posait une question, je pouvais répondre le lendemain. Voilà. Bon, je ne le faisais pas en général, j'essayais d'aller aussi vite que possible. Néanmoins, maintenant, il faut tout dans le quart d'heure. Ça, c'est le premier point.
Des questions, c'était technique, c'était...
Technique, analyse de marché, économique, etc. On pouvait prendre du temps pour fournir une analyse et on était d'accord pour cela. Les réunions étaient bien prévues, bien plus à l'avance et autres. Là, on a un agenda qui est beaucoup plus décalé, beaucoup plus mouvant, flexible, et d'où ce besoin voilà, d'instantanéité dans l'analyse, mais également, je dirais, de flexibilité et de polyvalence. C'est-à-dire qu'on va nous dire, on va nous demander de préparer un sujet, mais pendant la réunion, il va falloir aussi être capable de répondre à d'autres sujets et de manière aussi précise que possible.
Et en temps réel.
Et rajoutons une autre contrainte. Avant le Covid, c'était nécessaire, mais ça l'est maintenant d'autant plus, sans forcément la présence des personnes autour de soi. Forcément, s'il faut de l'instantanéité, les gens ne peuvent pas être là au même moment, d'autant plus si on travaille avec des personnes qui ne sont pas dans les mêmes pays, voire même dans les mêmes entreprises, etc. Donc, Wired est né, un outil voilà, cartographique qui permet finalement de faire, j'irais, une balade dans la ville, dans les rues, dans les quartiers, même dans les immeubles, de manière à répondre aux différentes questions que peuvent se poser les acteurs de l'immobilier.
Alors justement...
Me posais la question sur les questions qui peuvent se poser. Est-ce que c'est un petit peu... Alors, on a vu apparaître l'application de Meilleurs Agents hein, pour avoir des données de location, d'investissement, d'achat. Est-ce que ce sont ces données-là que vous mettez à disposition dans votre outil? Et jusqu'où est-ce que vous allez? Est-ce que vous allez beaucoup plus loin, j'imagine? Racontez-nous un petit peu.
Bien sûr, partons sur un exemple, l'immobilier d'entreprise, l'immobilier de bureau, par exemple, dans le Grand Paris. bien on va pouvoir répondre aux questions. Voilà, quels sont les immeubles aujourd'hui en offre, qu'ils soient seconde main ou neufs, voire même en cours de construction, en livraison dans le futur. Quelles ont été les transactions récentes sur le marché, que ce soit à location ou à la vente. Quels sont les niveaux de valeur. Quels sont aussi les locataires qui sont en place et où, leur typologie, la surface prise à bail, etc. et autres, pour permettre de répondre à des questions, qu'on soit au niveau finalement du locataire ou du propriétaire qui veut vendre ou louer son bien.
Justement, c'est utilisé par qui en priorité aujourd'hui? Quels sont les utilisateurs de Wired?
Bon, les utilisateurs de Wired, déjà directement, ce sont les consultants internes à BNP Paribas Real Estate, notamment, par exemple, la branche transactions immobilières d'entreprise. Et donc finalement, c'est à destination, comme on disait, soit des locataires potentiels en immobilier de bureau, qui ont finalement besoin d'avoir une appréciation du marché, quels sont finalement les sites en développement dans le Grand Paris, en cours de construction, quelle offre je peux avoir. Eh bien, au lieu de prendre sa voiture ou les transports et de faire une balade dans le Grand Paris où ça peut mettre une journée, voire plus, eh bien là, en une heure, on peut se déplacer de manière instantanée d'un quartier à l'autre et finalement avoir une représentation bien meilleure en moins de temps.
Mais du coup, c'est des outils que vous donnez aussi aux clients ou c'est un outil de commercial finalement ou de vos salariés qui accompagnent le client en montrant des choses?
La priorité numéro un pour l'instant, c'est apporter un outil à nos clients internes, nos consultants internes, pour aider nos clients directs à BNP Paribas Real Estate. Après, la voie peut s'ouvrir dans le futur. On est vraiment au début de l'histoire sur cette interface et sur ce Wired. Les choses pourraient changer à l'avenir.
D'accord.
Est-ce qu'on peut parler d'un jumeau numérique?
Oui, on peut parler peut-être même d'un métaverse, si on veut. Clairement, c'est un jumeau numérique.
On va pouvoir se balader avec son avatar dans cette réalité virtuelle.
Alors, on en est...
réalité virtuelle, mais du coup, très proche de ce qui existe.
C'est ça,
mais l'idée, c'est de répliquer exactement.
Totalement, et on n'en est pas loin, et ça peut répondre à cela. On sait très bien que les définitions sont assez, assez larges et poreuses dans ce sens. Donc oui, c'est un jumeau numérique du Grand Paris, voire même plus.
Ouais, c'est bien, c'est le buzzword d'un métaverse où vous risquez d'en vendre plus ou d'être plus à la page avec ce buzzword en ce moment. J'ai une question néanmoins, est-ce que ça remplace la visite en vrai? Alors on comprend l'aspect effectivement pour se projeter ou peut-être en première approche, mais est-ce qu'il y a quand même des investisseurs qui vont, comme on l'a vu chez les particuliers, qui ont fait l'expérience de la visite virtuelle, notamment pendant les périodes de confinement, investir réellement sans avoir vu ou juste avec le virtuel?
Alors ça peut permettre un comité d'investissement qui n'est pas forcément situé, par exemple, dans la ville de Paris, mais qui peut être finalement à l'international, où une partie vont se déplacer pour visiter, mais l'autre partie va pouvoir se suffire à être convaincue par ce type d'outils. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça peut aussi permettre de se projeter. Si vous avez un projet de construction, de rénovation d'un quartier, que vous montrez son développement dans cette interface Wired, on peut facilement convaincre des élus, municipalités, etc., à aller de l'avant et finalement prendre position sans finalement visiter la chose puisqu'elle n'existe même pas.
Alors, ce qui me semblait intéressant et j'avais regardé que vous aviez commenté, c'est que non seulement c'est une vision à date d'aujourd'hui, mais vous pouvez pousser plus loin et aller sur de la projection à 10 ans.
Oui, c'est-à-dire que notamment si on va sur l'immobilier de bureaux, parce que c'est là où on a été le plus avancé, on a tous les immeubles de bureaux en cours de construction, notamment dans Paris et bientôt en France. Et donc finalement, on peut avoir la timeline 2022, 2023, 2024, 2025 et voir finalement la ville se construire, se reconstruire dans l'outil.
On voit les tours se monter au fur et à mesure. Par exemple, dans le quartier de la Défense, les bureaux, c'est vrai que c'est une grosse part quand même du marché immobilier francilien, de l'immobilier d'entreprise. Justement, on va soulever un petit peu le capot. Comment vous alimentez quels sont les il faut de la data, c'est la matière première pour alimenter justement ces outils. Comment vous la récupérez? Quelles sont vos sources aujourd'hui?
Totalement. Alors, le but, c'est aussi d'avoir des données le plus variées possible. Et comme on disait, où il y a 10 ans, on avait besoin de moins d'instantanéité, on avait aussi besoin de moins de données. On pouvait se permettre d'avoir finalement une approche uniquement économique du marché. Enfin, moi, ça me suffisait à un moment pour vivre et répondre à mes clients. Aujourd'hui, on a besoin, bien sûr, de l'économie de la finance, mais aussi on a besoin des données dites socio-économiques, des données environnementales, etc. et autres. Donc finalement, c'est même sans fin dans les données qu'on doit ajouter. Plus précisément, qu'est-ce qu'on a? On a les données marché immobilier, comme on disait, transactions, offres, notamment. Ça, on l'a grâce au département commercialisation de BNP Paribas-Real-Estate, où là, on peut dire qu'on a quand même une base relativement exhaustive et précise du marché. À cela, on ajoute toutes les composantes sociales, économiques, environnementales, voire autres, qui nous paraissent intéressantes dans l'analyse. Et ça peut être sans fin, puisque maintenant, avec l'ouverture de l'open data, dès lors qu'on a un outil flexible, et c'est le but, et des données qui sont bien calibrées, elles peuvent être injectées dans l'outil dès le moindre besoin.
On va pouvoir, par exemple, on pense à tout ce qui est réglementation énergétique qui est en train de changer, savoir la consommation d'un bâtiment, par exemple, des choses comme ça, des données qui sont ouvertes aussi.
Pour être honnête, ce n'est pas encore fait, mais ça peut être fait. Mmh. Il suffit, entre guillemets, d'avoir la donnée, et cela pourrait être, mis.
On a quelques start-up dans la French PropTech qui gèrent l'estimation de ce que donnera la gestion de la partie énergétique sur un bâtiment avant qu'il ne soit construit. Donc ces données-là peuvent être disponibles aussi. Il y a des partenariats certainement à faire.
Intéressant. À creuser.
À creuser. Et moi, j'ai une question sur, du coup, dans la représentation sur les bâtiments neufs. Vous partez de quoi ? De maquette, vous avez, BNP Paribas, accès à l'ensemble des permis de construire des bâtiments, ou vous avez accès à des maquettes BIM ? Vous avez accès à quoi pour pouvoir les représenter ?
Déjà, pour l'extérieur, pour les immeubles qui vont être en offre et qui sont quasiment en cours de construction, dès lors que le projet est bien avancé, on a des maquettes extérieures qui sont relativement bien représentatives. Donc, une fois qu'on a ça, on peut texturer l'immeuble et le mettre dans l'outil. Et c'est ce qu'on fait un à un. Donc finalement, c'est plusieurs heures de travail parfois par projet. Mais ça vaut le coup, et d'autant plus que la granularité est assez limitée, notamment en immobilier d'entreprise. Hein. C'est quelques dizaines d'immeubles par an qui arrivent sur un marché francilien, par exemple. Donc c'est faisable.
D'accord. Aujourd'hui, vous avez mappé, fait le mapping ou cartographié l'ensemble des bâtiments, l'immobilier d'entreprise à Paris, ou dans le Grand Paris.
Oui, ça s'est fait.
Tout est fait. Ok.
Après, c'est prêt, c'est utilisé.
La prochaine étape, justement, pour l'outil, qu'est-ce qui va être développé, qu'est-ce qui doit être encore affiné, ou qu'est-ce que demandent tout simplement vos clients ?
Totalement. Alors, c'est l'extension. Aller aussi sur des villes régionales. On le fait, mais on peut encore mieux le faire. Donc ça, c'est le premier point. L'Europe également. Allemagne, Royaume-Uni et tous les autres pays. Et aussi après, aller sur davantage de typologies d'actifs. Voilà, on a beaucoup travaillé sur le bureau. Sur la logistique également, sur le résidentiel pour certains projets. Et le but, c'est de pouvoir avoir toute la couverture possible. Donc, c'est réellement une histoire quasiment sans fin.
Exhaustivité de l'offre, du coup, j'imagine, en fantasme à très long terme, mais exhaustivité de l'offre, qu'elle soit commercialisée par BNP Paribas ou pas.
Bah, en tout cas, en bureau, l'exhaustivité n'est plus en fantasme, on l'a.
Oui, oui.
On a toute l'offre disponible en bureau France. Et puis, s'il en manque, c'est vraiment une poignée à peine. Donc ça, on est très à l'aise là-dessus. Les transactions également, celles qu'on fait, mais celles qu'on ne fait pas, sont dans la base. Donc sur le bureau, on est prêt. La logistique également. Après, il faut le reconnaître, les autres classes d'actifs sont un peu plus granulaires. Il y a un autre travail à faire.
On peut se poser la question également, comme on est dans le monde des startups qu'on connaît bien. Alors c'est peut-être un peu moins le cas chez BNP Paribas Real Estate, qui est un énorme groupe, mais est-ce qu'on peut calculer un ROI, un retour sur investissement sur ces outils ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un plus pour effectivement vos forces commerciales d'avoir cet outil à leur disposition ?
Alors je vous dis franchement, en toute honnêteté, on ne l'a pas fait parce qu'on ne nous l'a pas demandé, et je vais vous dire, ça m'arrange. Parce que finalement, souvent, quand on nous met si on nous demande des ROI, des KPI, etc., c'est que les gens ne sont même pas convaincus que ce soit utile. Mmh. Voilà. On ne nous demande de rien parce qu'on sait déjà que c'est rentable. L'investissement a été modéré puisqu'on a eu de très bonnes connexions pour le faire. Et c'est un outil qu'on fait nous-mêmes, qui n'est pas fait de manière indirecte. Et on sait l'avantage comparatif que ça nous mène par rapport à d'autres confrères, d'autres institutions qui peuvent proposer des choses.
D'autant que c'est un projet intrapreneurial, ou du moins ça a été incubé, c'est ça, au sein de Bivouac, le hub de transformation de BNP.
Totalement, c'est quelque chose qui a été fait en interne, ce n'était pas une solution qui était clé en main, déjà apportée. On a essayé de regarder, de faire le tour du marché. On a trouvé soit que ça n'existait pas totalement, que ça ne correspondait pas à notre besoin, ou on avait finalement un besoin de flexibilité accrue, qu'on s'est dit, on va le faire, on va commencer, on va voir ce que ça donne. Et pour l'instant, ça marche bien.
Vous avez regardé les Canadiens Smart Pixel ?
On a vu tout ça, mais les rencontres qu'on a faites, à la fois humaines, entrepreneuriales, faisaient qu'on a pensé que les choses en interne pouvaient mieux réussir.
On a aussi l'impression qu'on a des prises de position. On vient de voir dans la distribution, un autre secteur, hein, Carrefour qui investit dans le métaverse, qui a acheté pour 120 Ethereum environ 300 000 euros, des hectares dans un monde virtuel. On a l'impression que il faut prendre position aujourd'hui. C'est important pour vous d'être à la pointe justement de ces mondes virtuels dont on nous promet un avenir assez exaltant, on va dire.
C'est vrai que. En tout cas, faut être à l'écoute, faut être en veille et faut être prêt à activer les choses. Mais encore une fois, cet outil, ça fait plusieurs années qu'on comptait le faire, qu'on souhaitait le faire. Et la crise de la Covid ne nous a pas arrêtés, au contraire, elle nous a convaincus qu'il fallait y aller. Donc oui, le but, c'est de répondre au mieux aux attentes de nos clients, de leur proposer des formules qui correspondent à là où ils sont, ce dont ils ont besoin, en temps voulu, et ce type de technologie y répond. Et c'est pourquoi je disais que l'histoire, elle est sans fin, puisqu'on peut pas être satisfait de ce qu'on a à un moment donné. Il va falloir, tous les 6 mois, repenser ce qu'on fait, etc., etc. La roadmap est sans fin.
Et dans la roadmap, où est-ce que c'est déjà possible aujourd'hui? Vous pouvez configurer des plateaux avec votre outil? Vous pouvez être avec un client et l'accompagner sur une disposition, une projection intérieure de reconfiguration de plateau?
Oui, notamment. Dès lors qu'on a qu'on est proche de l'offre, notamment avec un mandat, on a les données internes propres à l'immeuble qui sont là. Donc finalement, on a un outil qui est flexible et qui permet finalement de passer de l'extérieur à l'intérieur, bien entendu, une fois qu'on a les bonnes données à l'intérieur. Mais c'est faisable et on le fait.
Et le budget du client aussi, peut-être.
Le budget du client,
ça peut être pas mal à intégrer. Justement, Richard Mal, comment vous voyez le développement de cette réalité virtuelle appliquée au monde de l'entreprise? On va restreindre un peu les choses, et en particulier à l'immobilier d'entreprise. Quelles vont être les prochaines étapes, selon vous, là-dedans? Qu'est-ce qui va se développer?
Globalement, ça nous aide forcément à être meilleurs au niveau international. Voilà, on sait que les déplacements se sont limités. Donc ce type d'outil va être de plus en plus attendu. Faut penser aussi à la mobilité. Avoir des choses dans des salles ou avec des casques particuliers et autres, c'est bien en termes de technologie. Et on le regarde et on compte aussi être en forte veille là-dessus. Mais la flexibilité de l'outil est essentielle. Il faut qu'une personne avec un minimum d'éléments avec lui, mais le minimum qu'on puisse connaître, un téléphone, un ordinateur lambda, puisse permettre finalement de communiquer avec ce type de plateforme. Mmh. Donc, je pense vraiment que la souplesse, la flexibilité sera encore plus de mise.
Oui, et puis les économies, on parlait effectivement de ces visites virtuelles. Si par exemple, on se balade dans les tours de la Défense, ce n'est pas évident toujours de retrouver son chemin. Là, ça permet de visiter finalement peut-être plusieurs biens dans un même rayon très rapidement.
Totalement. Mais clairement, c'est sûr que la Défense, on peut en parler, c'est un sujet. Il faut vraiment bien connaître. Aller d'une tour à l'autre, ça paraît très
simple,
très étroit et très facile sur la carte. Et ça peut mettre plusieurs dizaines de minutes. Là, en termes de visite, c'est relativement efficace. En une heure, on peut avoir vu une bonne partie de l'offre et après prendre position et bien sûr se déplacer après. Le contact physique avec l'objet immobilier est indispensable. Mmh. Mais on gagne du temps avec tous ces outils.
Donc finalement, premier ROI, gain de temps.
Clairement.
Pour savoir si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas, si c'est un no-go aussi, ça peut être éliminé d'emblée parce que pas la bonne exposition. Il nous reste quelques minutes pour faire la conclusion. Jeanne Massa, vous qui êtes aussi spécialiste sur ces outils, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, justement, comment pensez que ça va se développer aussi?
Moi, je suis convaincue, sinon je n'aurais jamais lancé Habiteo, de cette nécessité de projection et cette nécessité d'outils qui soient le plus simple possible, abordable pour finalement tout le monde. Donc tout ça va dans le bon sens et finalement apporte des pièces supplémentaires à chaque fois. Et quand on parle de cartographie de la France sur ces outils-là qui sont finalement un mix de virtuel et de réel, c'est ça aussi qui est important de garder, c'est que c'est pas un métaverse, c'est bien le monde réel qu'on donne à disposition de toute personne qui ne peut pas être présent à cet endroit-là. Et où le monde de demain, parce que il y a des projets qui sont en cours et qui vont arriver. On n'est pas en train d'acheter des hectares dans le métaverse pour y implémenter une tour qui ne verra jamais le jour dans le monde réel. Donc c'est ça ce qui est extrêmement intéressant et qui effectivement est en train de changer, je pense, la donne sur la partie immobilière. Quand on est arrivé il y a à peu près 7 ans maintenant sur le métier de 3D, on en parlait très très peu. Beaucoup de personnes commençaient à s'y intéresser. De la réalité virtuelle, on savait pas trop. Il y avait les casques, il y avait des choses qui arrivaient, des jeux vidéo, mais ils savaient pas très peu faire la différence aussi. Aujourd'hui, la réalité augmentée permet d'arriver sur de l'immobilier d'entreprise et de pouvoir concevoir un certain nombre de choses. Tout ça devient des outils qui, je pense, rentrent véritablement dans une construction. Et c'est absolument génial de voir BNP Paribas qui investit dans ces outils-là et en font un outil, finalement, mis à disposition de l'ensemble de l'entreprise pour mieux vendre, pour mieux accompagner ses acheteurs. Et ça n'existait pas, en fait. Sur le déploiement global, sur cet investissement, ce déploiement, en se disant « je ne fais pas le calcul du ROI derrière,
C'est pas mal.
Il y en a pas encore beaucoup qui sont à ce niveau-là.
Voilà. Donc Wire, le premier outil d'analyse de data immobilière en réalité immersive, aujourd'hui à la disposition des équipes de BNP et demain peut-être ouvert, qui sait, en API vers d'autres systèmes.
Tout à fait. C'est une possibilité, comme on l'a dit, la voie est grande ouverte.
Très bien. En tout cas, merci pour toutes ces infos. On remercie Richard Mal, BNP Paribas Real Estate, en charge des sujets innovation, data et recherche, bien évidemment. Merci Richard. Merci Jeanne.
Merci à toi.
Jeanne Massa, la patronne de Biteo et vice-présidente de la French PropTech. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du quart d'heure de l'IMO.
Le quart d'heure de l'IMO. Une émission en partenariat avec Habiteo, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.